Stammtisch, toute l'actu du HCBN proposée par Ajour, RJB et le Journal du Jura.
Hello Laurent, hello Cyril, hello Gaëtan, bienvenue à la Stammtisch. Je vous offre pas à boire aujourd'hui, je vous offre ce beau gâteau. J'ai allumé la bougie, c'est pour ça qu'il rigole déjà. Alors je fais le tour de la table. Hein.
Ça prend du temps, voilà. Joyeux anniversaire Laurent, il est là.
Belle fête.
Voilà, j'ai posé un vrai gâteau sur la table cette fois-ci, c'est pas pour de faux. Joyeux anniversaire, qu'est-ce que je vous sers d'autre? Ben du coup, Laurent, t'as la bougie et le gâteau entre les mains, tu décides si tu veux le partager ou pas. Qu'est-ce que tu veux d'autre?
Bon, il y a une bougie, il y en manque 49. Écoute, non, je vais faire une petite variante. Je te demande un droit de bouchon, c'est-à-dire j'arrive, moi, avec quelque chose. C'est Gaëtan, en arrivant, qui m'a offert une boisson... Une boisson gazeuse à base de raisin, très appréciée des enfants. Un nouvel an, on va pas donner de marque, hein. Donc on va y aller avec ça. C'est sans alcool, hein.
C'est sans alcool, évidemment. Cyril, tu veux quelque chose d'autre à ce festin?
Oui, alors je prendrais volontiers un bout de pain sec et un verre d'eau.
Ben j'assouffle, tu t'as bougé ou bien
tu peux la souffler?
Attention,
brûler le sud.
Bien joué, Gaëtan, quelque chose d'autre?
Ouais, c'est à la potion magique à Astérix et Obélix, ça peut me faire du bien.
Fais voir Panoramix, je te tiens au courant, j'arrive dans 5. Bonjour à toutes et à tous, l'Stammtisch, saison 5, épisode 4, spécial ASMR aujourd'hui, avec ces bruits de cuillère pour le gâteau que vous ne pouvez pas manger car c'est un podcast, on est désolé, en compagnie du capitaine du HCBN Gaëtan Haas. Salut Gaëtan.
Salut.
Tu vas bien?
Oui, ça va pas.
Avec
mal.
Le gâteau, ça va?
Ça va pas mal.
Autour de cette table, on retrouve évidemment à l'aile gauche Cyril Pache, journaliste sportif à Tamedia. Salut Cyril.
Salut tout le monde.
Et Laurent Kleissel, rédacteur en chef du Journal du Jura et dorénavant quinquagénaire. Joyeux anniversaire Laurent.
Merci de le rappeler.
Tout va bien?
Oui, tout va bien. Tout va très bien même.
Laurent, en plus de ce qu'il y a sur la table, donc à boire et à manger, on l'a compris, tu avais un autre cadeau pour tes 50 ans. Pouvoir choisir l'invité du jour et ton choix s'est porté sur Gaëtan Haas. Pourquoi Gaëtan Haas?
Bah, disons que c'est, comment dire, c'est quand même un jeune homme. Je ne vais pas dire juste son biographe, mais je pense que je suis des journalistes qui ont écrit plus de papiers sur lui pendant ma carrière de joueur sportif. Je l'ai vu arriver à 16-17 ans à peu près, dans le contingent de la première équipe, déjà vu un peu avec les Judoréites. Donc il y a un petit parcours, ces 10-15 dernières années. On sait, quand il était en NHL, on avait beaucoup de contacts aussi, hein. On s'envoyait, j'ai fait pas mal de papiers, pas mal de suivis, son premier but, son premier assist, son renvoi en Ligue mineure, la totale, quoi. Et puis bon, ben voilà, quoi, c'est Gaëtan, quoi. On a toujours eu un très bon contact, hein, Gaëtan, je crois que...
Je crois, en fait, tu résumes, je suis ton gagne-pain, quoi.
Tu étais. Hein. C'est pour ça que t'as plus de papier maintenant dans le Journal du Jura, quoi.
t'as bien résumé la chose, je crois que... Ouais, je pense que t'es un des premiers journalistes que j'ai vu dans ma carrière, donc... Ouais, il y a eu du chemin jusqu'à aujourd'hui.
Un des premiers journalistes, on en reparlera, mais ce sera tout en fin d'épisode. Laurent, t'auras d'autres privilèges vu que c'est ton anniversaire aujourd'hui, ça viendra au cours d'épisodes. On va bien sûr parler sinon du HCBN, évidemment, tenter de poser la majorité des questions qu'on a reçues pour toi Gaëtan de la part des auditrices et auditeurs. On va parler d'abord, premier chapitre, pendant que le gâteau est servi, on va parler des blessures, hélas. Gaëtan, tu as manqué tous les matchs de préparation à cause d'une blessure, c'était au dos, on est d'accord là-dessus?
Oui.
D'accord, et maintenant, tu as joué 5 matchs et après commotion cérébrale, comment tu te sens aujourd'hui?
Il y a des hauts, il y a des bas. Je dirais que j'espère que le plus dur est derrière. Ça a été 2-3 semaines assez compliquées mentalement, mais on avance. C'est dur de dire vraiment l'état dans lequel je suis. Que ça soit physiquement, parce que en deux trois semaines on perd beaucoup, mais après le plus important c'est de remettre la tête correctement.
T'as plein de sucre devant toi, ça va te faire du bien ça.
Je vais prendre ça comme traitement, je crois.
Les commotions, ça reste évidemment un vrai problème dans le hockey. Ça arrive souvent actuellement, rien qu'à Bienne. Commotion pour toi, commotion pour Victor Leuve, commotion pour Nicolas Müller. Merci pour le gâteau. On l'a appris mardi pour Nicolas. On va s'y intéresser plus en détail avec quelques questions, même parfois très naïves. Concrètement, d'abord, le diagnostic, à quel moment et comment tu sais, OK, là, c'est une commotion?
Disons que moi, vu que c'est pas la première, je sais assez vite si c'en est une ou pas. Il y a des fois la nuque qui peut avoir un impact sur tes yeux. Et si tu arrives à régler la nuque et que tout va bien, tu sais que c'est pas forcément une commotion, mais quand il y a beaucoup plus de symptômes comme le mal de tête, pression, vertige, et j'en passe, t'as rendez-vous souvent chez le médecin, soit chez un des physios, ils te font quelques tests faciles, je dirais, qui peuvent diagnostiser une commotion.
Les tests, ça peut ressembler à quoi ?
Suivre un doigt, test de balance, ensuite beaucoup de questions sur ton état, si t'as un mal de tête de 1 à 10, etc. quoi.
Bah, tu vas à la crèche avec des gamins, puis tu les regardes en train de mettre des formes rondes, des trous carrés. C'est là que tu te dis, ah, elle a peut-être une commotion, quoi.
Tu dis ça, Gaëtan, c'est pas ta première, t'en as eu combien environ des commotions déjà dans ta carrière?
Ah, je pense, je suis gentiment vers la, vers la 5, voire 6e. Je dirais que les 2-3 premières ont été assez espacées. Là, en une année, je peux en compter, je pense, 3, donc ça faisait beaucoup. Ouais.
C'est après les 3 premières qu'il a commencé à bien parler de suisse allemand, quoi.
Merci Laurent pour ces interventions toujours plus perspicaces.
La journée a été longue pour Laurent aujourd'hui.
Cyril, on peut faire ce qu'on veut au final, même si le hockey moderne, on peut améliorer les protège-dents, les casques, les bandes. Au final, les commotions, ça fait partie du jeu.
Je pense que ça devrait pas, en tout cas pas celles qui sont liées à des charges qui sont illicites. Bien sûr que ça peut arriver, j'imagine, dans une action tout à fait anodine, mais si on arrive un petit peu à diminuer les mauvais coups, et comme j'ai compris, ben la dernière commotion de Gaëtan, c'est quand même lié à une faute flagrante, à un mauvais coup, ben ça, il faut quand même essayer de supprimer tout ça. Je crois qu'il y a eu beaucoup de grands discours pour dire qu'on allait faire attention, qu'on allait vraiment avoir de la tolérance zéro contre les charges contre la tête, et puis au final, on voit quand même que ça continue, quoi.
C'était ça, Gaëtan, c'était un coup de coude cette fois-ci.
Ouais.
Cyril, toi, dans cette époque bénie dans laquelle tu as joué, on parlait beaucoup moins de commotion. C'est quoi? C'était le fait que c'était quelque chose qui était inconnu. Moi, j'ai discuté une fois avec Martin Steinegger, tout ça. Il m'a dit il pense avoir joué de nombreux matchs dans un état commotionné. Mais à l'époque, on ne savait pas vraiment ce que c'était. T'as vécu des choses par rapport à ça, mais. On parle presque du siècle passé, hein.
Non, en effet, j'ai eu quelques coéquipiers qui en ont eu à l'époque. Moi, personnellement, je pense pas. En tout cas, j'ai jamais été diagnostiqué pour une commotion. Je me suis déjà pris des grosses charges, dont une fois très, très grosse où j'ai vraiment eu où tu perds un peu tes esprits pendant quelques secondes, mais j'ai pas eu après coup des symptômes de commotion, donc j'estime que j'en ai pas eu, mais ouais, à l'époque c'était quand même un mal qui était un peu déjà méconnu, et puis certainement beaucoup moins fréquent qu'aujourd'hui, mais je pense aussi qu'il y a pas mal de raisons qui font qu'il y en a plus aujourd'hui. Et bon, c'est assez connu, les joueurs vont plus vite, sont plus gros, plus puissants et tout, les impacts sont beaucoup plus forts, donc voilà.
T'es sûr que t'as pas eu de séquelles, quoi? Franchement, t'es sûr?
Je mettrai pas ma main à couper, mais comme ça, je dirais que non.
Gaëtan, ces deux dernières saisons, sauf erreur, vous aviez ce petit boîtier de l'entreprise Behrmeinz sur le casque pour justement pouvoir voir les chocs auxquels vous êtes confrontés durant une partie. Vous les avez plus, sauf erreur. Pourquoi, cette saison? T'as une idée?
Faut pas demander à moi.
mais vous les avez plus, on est d'accord.
On les a plus.
Ok, très bien. On parle de commotion, du diagnostic. Ensuite vient évidemment le processus de rétablissement. Concrètement, ça se passe comment? Quel est le plan que tu dois suivre jusqu'au retour au jeu?
Sur le papier, il y a un protocole à suivre avec plusieurs étapes. À chaque fois qu'une étape est pas top, tu reviens à l'étape d'avant. Ouais. Alors c'est un peu le système, je dirais, qui a.
En général.
Mais chaque cas est différent. Chaque commotion est différente. C'est pas un os cassé, c'est pas un ligament, c'est vraiment complètement différent. C'est la partie la plus frustrante, c'est qu'en fait on voit rien du tout. On sait pas qu'est-ce qui a été touché ou autre. Du coup, c'est assez dur à gérer.
C'est vrai, c'est comme Cyril, hein, on voit rien du tout, on sait pas ce qui a été touché. Mais, ouais, ça va être dur à gérer, Cyril. Non, plus sérieusement, t'es à quelle étape? T'en es où? T'as un plan? Est-ce qu'on te voit ce week-end ou dans 6 mois? C'est quoi la... c'est... T'en es où un petit peu dans ta vie professionnelle?
Ouais, j'en suis où? Ben... Je suis dans le protocole. Après, j'ai demandé un peu plus de tests que les dernières fois. Je suis allé à Zurich déjà 3 fois dans un centre pour commotion. J'y retourne encore la semaine prochaine. Du coup, j'ai un peu plus à faire avec les gens de là-bas actuellement. J'ai repris la glace tout seul cette semaine. Mais tant que j'ai des symptômes sur la glace tout seul, je peux pas passer à l'étape du dessus. Donc je reste actuellement là-dessus avec les traitements qu'on m'a donné à faire. Et ouais, étape par étape, quoi.
Est-ce que ça a été discuté ou est-ce que tu as pensé de tout simplement tirer un trait sur la saison et puis bien se remettre et reprendre au printemps prochain? Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je me dis, ah voilà, t'as 32, tu vas sur les 33, est-ce qu'il faudrait pas une fois prendre vraiment beaucoup de temps pour bien se remettre et puis après repartir, quoi?
En résumé, il est en train de dire que t'es en train de devenir vieux et puis que chaque blessure est plus dure à se... Voilà, c'est sympa, Cyril, sympa.
Mais non, c'est une excellente question. Tirer un trait sur la saison, c'est, je pense, ça serait exagéré. Mais je pense maintenant, je dois juste vraiment écouter ma tête, prendre vraiment les conseils des professionnels et justement, je veux dire, c'est déjà venu de moi de demander à aller là-bas pour vraiment avoir des réponses et faire un plan qui a du sens. Donc c'est vraiment que cette fois, j'ai envie de remettre la chose correctement avant de revenir.
Tu l'as dit, c'est environ ta 5e commotion. C'est la première fois que tu décides d'aller à Zurich. Concrètement, qu'est-ce qu'ils offrent dans ce centre renommé pour traiter ces commotions?
Bon, je dirais que c'est des tests un peu plus poussés que ceux qu'on a en club. Ils sont spécialisés là-dedans, donc je dirais que le traitement est aussi, je l'espère, meilleur. Et voilà un peu ce qu'ils offrent, quoi.
Mentalement, comment tu te sens aujourd'hui?
Ouais, je pense toujours pas au top. Ça a été compliqué. Très honnêtement, après le match, j'ai craqué un coup parce que c'était un peu un trop pour moi. À partir de là, justement, ça a été 2 semaines vraiment dures. Mais les gars, ils sont là, ils sont cool. Les coachs qui sont derrière moi aussi, avec Martine aussi. Donc, non, c'est cool de sentir du soutien de ce côté-là. Maintenant, je dirais qu'à partir de cette semaine, j'ai commencé un peu peut-être changer de mentalité à commencer à accepter la chose et voir de l'avant en étant un peu plus positif.
Moi, j'entends déjà les pisse-vinets qui se disent « Mais Gaëtan Haas, une commotion cérébrale, qu'est-ce qui vient s'enfermer avec 3 gulus qui vont y poser des questions dans un studio où il fait chaud, il y a une lumière froide. Finalement, c'est quoi les activités qui vont pas ou les choses dans le quotidien auxquelles tu dois faire attention? C'est certains commotionnés qui disent qu'ils n'aiment pas le bruit, ils n'aiment pas la lumière.
Bah voilà, de nouveau, c'est pour ça que j'ai dit avant, chaque commotion est différente. Moi, ça s'est traduit par des maux de tête et de la pression, surtout, je dirais, sur les 2 premières semaines en faisant rien. Maintenant, c'est passé, c'est exactement ces mêmes symptômes reviennent quand j'augmente mes pulsations, donc que ça soit sur un vélo, sur la glace. Et que je monte dans les pulses, c'est là que les symptômes reviennent. Après, en dehors de ça, je dirais que j'ai assez de chance. J'ai pas vraiment d'autres choses qui m'embêtent. Après, être dans le bruit, typiquement venir à un match actuellement, je le fais pas parce que je trouve ça a aucun sens. J'ai meilleur temps d'être tranquille à la maison chez moi. Et je dirais aller marcher, ça fait du bien d'être un peu dehors, pas forcément être devant les écrans tout le temps. Donc, aller boire un café avec des copains ou avec ceux de l'équipe, ça fait du bien parce que tu vois du monde, tu parles et puis t'es pas concentré sur ça. Je pense que le pire, c'est d'être concentré que sur ça et en fait t'avances pas.
Alors on va faire comme ça avec Cyril et Lyndon, on va parler doucement.
Non, j'ai dit justement, pour discuter, éviter, ça, c'est pas un gros problème.
Et alors tu mets le cerveau sur off, tu te concentres pas, puis tu sors Ce qui devient, là, ce qui devient. C'est quoi ton salaire?
On va quand même aller avec la première question d'auditeur. Tu y as déjà bien répondu, mais Thomas qui demande, est-ce qu'il existe une chance de te revoir avant la pause des équipes nationales?
Demander à ma femme. on a encore réfléchi. C'est vrai que là, j'ai quand même perdu aussi physiquement. Et ça fait aucun sens de forcer la chose et de dire, OK, la tête est OK. On va jouer le week-end prochain et se briquer un genou, quoi. Je pense qu'il y a, en plus de la tête, il va falloir maintenant physiquement aussi travailler. Et puis, du coup, c'est presque encore positif qu'il y ait la pause. Ça me donne, je dirais, une semaine de plus pour éventuellement bien me préparer et éventuellement, si tout se passe bien, pouvoir reprendre après la pause.
Top. Dans l'idéal, donc environ mi-novembre. On va parler d'une autre blessure, celle de Jérémy Berchi.
Parle-moi fort, s'il te plaît.
Parce que ça a été communiqué ce mercredi matin, fin de saison pour le Neuvillois, qui doit se faire opérer de l'épaule. Ça, c'est ce qui a été communiqué par le club. Opération de l'épaule la semaine prochaine. En vérité, il aura même deux opérations. Je l'ai appelé cet après-midi pour en savoir plus. On écoute sa première réponse. Jérémy, le club a annoncé ce matin que tu devais te faire opérer de l'épaule et que tu ne reviendrais pas à cette saison. En réalité, tu as même deux opérations de planifier. On va le faire dans l'ordre chronologique, si tu le veux bien. Tu t'es tout d'abord blessé au poignet, et ça, c'était avant même le début de la saison, c'est ça?
Oui, c'est arrivé. J'ai eu un accident pour les matchs de pré-saison. Je suis allé faire une radio au poignet et il se trouve qu'on a découvert que j'avais le poignet fracturé, mais que c'était une blessure plus ancienne, en fait, que ça faisait un moment que je l'avais. Et donc, on a prévu une opération pour la fin de saison. Et ouais, avec la situation actuelle, on a décidé de faire aussi cette opération tout de suite.
Il prévoyait donc de jouer toute la saison malgré le poignet gauche fracturé, vu que ça ne le gênait pas trop. Problème, il s'est ensuite blessé à l'épaule. Il nous raconte aussi cette blessure-là.
Contre Lausanne, le 1er octobre, j'ai déjà eu un petit accident avec l'épaule qui a bougé dans le sens où elle est sortie, mais elle est rentrée par elle-même dedans. Donc, c'était entre guillemets pas trop grave. Et bah ouais, à partir de cela, comme tu as dit avant, j'ai quand même dû faire un peu attention. J'ai pu apprendre tous les face-offs que je voulais. Et puis, la semaine passée à l'entraînement, il y a eu le gros accident où je me suis complètement luxé l'épaule et cette fois-ci, elle n'est pas rentrée toute seule, c'est moi qui ai dû la remettre dedans. Et donc voilà, là, c'était un peu trop et après ça, l'opération était obligatoire.
Il s'est donc luxé l'épaule en tirant à l'entraînement. Deux opérations à venir, d'abord l'épaule, ensuite le poignet. En principe, fin de saison pour lui. Bon rétablissement à Jérémy. Merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions. Gaëtan, c'est évidemment dommage. Il avait réussi à se faire une place dans l'effectif aussi en situation spéciale cette saison.
Ouais, après, voilà, une blessure, c'est clair, ça arrive jamais au bon moment. Il a fait des pas incroyables la saison passée. Il était en train de confirmer ça maintenant. Il avait beaucoup de temps de glace, la confiance des coachs. Mais comme pour Noah, je veux dire, quand les blessures, elles peuvent t'amener aussi beaucoup de positifs. Il faut juste savoir les prendre du bon côté, apprendre pas mal de choses. Il va apprendre pas mal de choses sur lui et je me fais pas de soucis. Il a tout ce qu'il faut pour revenir. Il entre de bonnes mains. Maintenant, on sait qu'il sait ce qui se passe et il peut construire là-dessus pour le futur.
Tu dis, il entre de bonnes mains, il va se faire opérer dans une clinique bernoise qu'un certain Gaëtan Haas lui a conseillé, parce que toi aussi, tu avais eu des problèmes à l'épaule par le passé.
Ouais, je me suis opéré en début de carrière, je dirais.
2013, sauf erreur.
Ouais. On m'avait envoyé chez ce docteur. Puis bah, moi, au moment où j'ai appris la chose, je lui ai clairement conseillé parce que c'est vrai que j'avais eu un hyper bon feeling avec et que tout s'était vraiment très bien passé. Et depuis là, c'est vrai que j'ai quasi plus de problèmes avec l'épaule. Donc, je lui ai conseillé au moins d'aller prendre la vie. Et puis, je suis content que ça puisse jouer, quoi.
Il a dit, Gaëtan, Cyril, qu'il y avait du positif à retirer de certaines blessures, comme par exemple pour Noah Delémont, qu'on a revu sur la glace pour ton plus grand plaisir, j'imagine.
Alors j'ai pas eu la chance de le voir en live, mais j'ai entendu pas mal de bonnes choses. Je me réjouis de pouvoir assister à une de ses représentations prochainement. Voilà.
Jérémy, si tu nous écoutes, je pense qu'on pourrait l'engager, Lindo, dans notre villa.
Pour chroniqueur,
consultant ici, chroniqueur, Plastamtich.
Totalement. Hein, ceci
écrire des petits papiers corrosifs sur ses, sur ses coéquipiers, ça pourrait être pas mal. Hein.
Gaëtan, Noah avait profité, de sa, profité entre beaucoup de guillemets de sa blessure pour commenter plusieurs matchs sur RGB. Voilà. Un emploi désormais à portée de main pour Jérémy.
Parce qu'il est, il est à l'aise chez nous, hein, Jérémy.
Ah, il est à l'aise.
Ah, il est bien. Il est... Bon, Gaëtan, t'es bien ici.
Moi, je suis tranquille.
La tête, ça va.
Je suis presque à la maison, moi. Là.
C'est vrai. La dernière fois, tu étais entré tout seul. Là, désolé, on s'est croisé. Tu n'as pas pu entrer tout seul dans le bâtiment.
C'est pas grave, comme ça, je ne dois pas rechanger les codes.
Toi, commenter des matchs sur RGB, tu l'as déjà fait?
Ouais, ça m'est arrivé quelques fois, je crois.
Ça semblait aussi, hein. Parfait, vous y êtes
tous passés. Consultant, commenter, on va laisser à Raphaël Chalveur, à Jérémy Pignard et autres.
C'est sûr.
Excellent commentateur, ce travail-là, consultant.
Évidemment. Si on fait la liste des blessés pour clore ce chapitre blessure, donc Jérémy toute la saison en principe, Gaëtan, Victor, Nicolas, on l'a dit, commotion pour vous trois, tu as des nouvelles, Victor Leuve, de sa commotion, c'était au match à Berne.
Ouais, lui, là, je pense qu'il a quand même pris un bon coup, on l'a pas revu depuis, mais ouais, je crois qu'il va avoir besoin d'un peu de temps. Ouais.
Moins grave en principe pour Nicolas Müller.
Ouais, lui il est déjà sur la glace.
Ok, très bien. Dans les dernières nouvelles, Miros Rid, déchirure musculaire, mais proche d'un retour aussi, tu confirmes?
Oui.
Parfait. Et Damien Brunner, problème musculaire là, aussi proche, son retour?
Je crois qu'il est plus en phase de, on va dire, reconstruction musculaire et ça sera plus pour après la pause, je dirais.
C'est bien là, comme tu réponds à ces questions là. Comme dans ton contrat, il y a une reconversion là. Est-ce que tu postules à reprendre le poste de Martin Steinegger comme directeur sportif? Tu serais bien là. En tout cas, les réponses sont claires. Tout, là, tu t'habites bien l'ami là. T'es bien là.
Non, je crois que j'essaie d'être simple et précis.
Pour l'instant, c'est une réussite.
Donc, ce n'est pas des questions de merde.
Jamais, non. Question d'auditeur de Tommy. Cette année et l'année passée, il y a eu beaucoup, beaucoup de blessés. Je crois qu'on a déjà eu la même question l'année passée. Est-ce que tu penses que la préparation peut y être pour quelque chose?
Je ne sais pas comment je devrais dire ça. J'ai vu des footballeurs gueuler il y a pas long sur le nombre de matchs qu'ils ont depuis quelques temps et puis que c'est pas normal et tout. Et je pense que chez nous, il y a quand même beaucoup, beaucoup de matchs. On a des back-to-back vendredi, samedi où physiquement, mentalement, c'est pas facile. T'as des nuits courtes, tu sors d'un gros match le vendredi, tu vas rejouer le samedi. Et j'ai pas la statistique, mais je pense qu'il y a beaucoup de blessures le samedi. Et si on regarde les autres équipes, il y a quand même beaucoup de blessés partout. Et moi, je trouve qu'on joue vraiment énormément et que c'est une grosse demande pour le corps. La préparation physique, à la fin, tu peux faire ce que tu veux. Je pense que tout le monde est prêt de la même façon. Il n'y a pas une équipe qui est plus prête que l'autre. Chacun bosse dur pendant l'été et du coup... dire, voilà, des commotions, c'est pas de chance ou sûrement des checks un peu bêtes. C'est plus quand c'est musculaire, je dirais que là, faut peut-être un peu se poser des questions. Si t'as, voilà, des adducteurs éventuellement, là ou là, tu pourrais poser la question de est-ce que le coach physique a fait le job, mais je pense que c'est jamais vraiment le cas. Les blessures, c'est souvent des trucs déchirés suite à un choc ou autre, donc... Est-ce que les organismes sont toujours prêts à chaque match à prendre des charges pareilles? Je pense pas. Mais voilà, nous, on est dans le système et puis on fait ce qu'on nous demande de faire.
Alors, je suis d'accord et pas d'accord avec Gaëtan. Je suis pas d'accord. Le fait 52 matchs de saison régulière plus les playoffs entre septembre et ça nous amène fin avril, on est à la limite. Maintenant qu'il n'y a plus la Coupe de Suisse en plus, c'est un peu plus compliqué peut-être pour les équipes qui avancent en Ligue des Champions, ça je veux bien en convenir. Je trouve qu'on arrive à quelque chose d'encore correct, qui est pas, faudrait pas aller plus loin. Après, je pense que 4 matchs de préparation aussi, ça pourrait suffire. Des fois, de ces matchs de préparation avec un tiers d'équipe, on va dire un tiers de cadre et le reste contre une équipe de Swiss League, je vois pas forcément l'intérêt. Après, par contre, il y a quelque chose auquel je m'oppose. J'ai eu fait, il y a quelques années déjà, des papiers là-dessus. C'est le vendredi samedi, c'est une aberration totale. C'est une aberration totale. En plus, les matchs du samedi, généralement, sont de moins bonne qualité. Le spectacle est moins bon, les spectateurs s'y retrouvent moins, les joueurs sont fatigués. Comme l'a dit Gaëtan, c'est vrai que c'est là. Je connais pas les statistiques, mais je pense que ce sera assez flagrant de voir que c'est plutôt le samedi qu'il y a des blessures. Je parle pas du gars qui manque un match parce qu'il a repris un peu, que je parle de vraies blessures, de blessures graves. Et en Allemagne, par exemple, en DEL, ils jouent le vendredi, dimanche, parce que samedi soir, les gens aiment bien faire autre chose. Il y a aussi la Bundesliga qui prend beaucoup de fans de hockey. Et le dimanche après-midi, il y a quelque chose qui fonctionne bien. Je pense qu'on pourrait aller peut-être plus dans ce sens-là, où c'est que, OK, il faut que les joueurs soient bien payés. C'est pas Gaëtan qui va me contredire, ou bien Gaëtan, tu vas pas me contredire, non?
Non, mais je pense que, voilà, c'est le cas dans beaucoup de...
Les joueurs sont bien payés, il faut que les clubs fassent des revenus pour assurer ces... Mais de l'autre côté, il faut que les joueurs puissent donner ce spectacle et redonner quelque chose sur la glace. Et ce concept de vendredi-samedi, c'est une aberration. Moi, j'ai commencé en tant que fan de hockey, c'était mardi-samedi, puis de temps en temps, il y avait la semaine anglaise, il y avait un match le jeudi, on était tout excité parce qu'il y avait 3 matchs pendant la semaine. Ça arrivait 2 fois par année, puis c'était les plus belles semaines de l'année, quoi. Mais maintenant, c'est vrai qu'en plus, ils devaient jouer lundi, ils ont pas joué parce qu'il y a pas de jus à Auvernais. Mardi, après mercredi, il y a des matchs, etc. Parce qu'ils ont repoussé, parce qu'il y a l'équipe de Suisse ou Young Boys ou je sais pas, quoi. Au bout d'un moment, on sait plus. On est un peu perdu. Là, je pense qu'il y a un truc à faire. Je sais pas, Cyril, toi, qui as vécu le hockey béni du siècle passé, quoi. On y revient toujours. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire de ces matchs du vendredi samedi? Tu l'as vécu toi aussi? C'était au début. Je pense sur ta fin de carrière, ça a commencé, les matchs vendredi samedi. Je ne vais pas raconter certaines anecdotes, mais je le sais que il y a eu les vendredis samedi.
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Pour moi, la première chose, c'est déjà de raccourcir la période de préparation. On a tous ces matchs amicaux, franchement, je pense que ça ne sert à rien. Ensuite, le bon rythme, ce serait en effet le meilleur rythme aussi pour vraiment susciter un gros intérêt, ce serait d'avoir 2 matchs par semaine. Le mardi, samedi, ça a toujours bien fonctionné. Là, il y a tellement de matchs qui succèdent. Souvent aussi, on le remarque un petit peu aussi dans les médias. L'intérêt est pas toujours très grand pour ces matchs parce que c'est un peu comme si c'était de la liquidation. Et en effet, ces doubles rondes du vendredi, samedi, c'est vrai que le match du samedi, souvent, il est pas très bon. Et puis, c'est vrai que pour les joueurs, en plus, souvent, le calendrier est incohérent. On peut avoir Genève qui va à Davos. Et le lendemain, au lieu de jouer dans la région, ils reviennent à Genève pour jouer contre je sais pas trop qui était à l'autre bout du pays le soir avant. Donc, c'est vraiment pas une bonne formule. Après, les clubs veulent jouer le vendredi et samedi, sinon ils le feraient pas, quoi. C'est parce que c'est les soirées où ils estiment qu'ils vont faire le plus de rentrées, le plus d'argent, où les gens ont le temps de rester à la patinoire puis à consommer. Donc, c'est plus au CEO des clubs de régler ça ou d'être un peu plus conscient des problèmes que ça cause pour les joueurs.
On rappellera quand même, pour ceux qui l'ont oublié, que Gaëtan a joué 2 saisons à NHL. Aux Edmonton Oilers de Connor McDavid, hein, c'est longtemps que je n'ai plus sorti.
Ça fait longtemps.
De Connor McDavid, avec des saisons à 82 matchs. Peut-être tu peux nous... Bon, c'était les 2 saisons Covid, hein, que tu as vécu. Ouais. C'était un peu particulier, mais il y a quand même... c'est assez particulier à NHL. Une équipe d'à côté, genre, on va dire les New York Rangers, ils vont partir 10 jours, ils vont se faire Anaheim... ils vont se faire San Jose, Los Angeles, en rentrant, ils passent encore par Utah maintenant, et puis Las Vegas, et puis ils font 5 matchs en 10 jours à l'extérieur, et après ils sont 2, voire des fois peut-être même 3 semaines à la maison. Tu as vécu ça, c'est différent, parce que la charge quand même, en plus on a une NHL, la charge est lourde, mais avec ces voyages et tout, ces espèces de spots où c'est qu'on est 2 semaines à la maison, 2 semaines à l'extérieur, comment tu... C'est différent par rapport à...
Ouais, non, c'est différent. Mais après, je veux dire, là, tu t'entraînes carrément plus, quoi. Là, t'es vraiment... Tu joues seulement. Enfin, pour moi, c'est complètement démesuré. Ouais. Il y a énormément de matchs. Tu voyages en plus. T'as les jet lags que tu te prends dans la face. C'est énorme. Mais pour moi, le hockey, c'est quand même le sport où il y a le plus de matchs par semaine. Enfin... Je vois pas un autre sport où ils font autant de compètes en une semaine.
Le baseball, je crois que la saison régulière, il me semble, c'est 152 matchs. Après, ça peut arriver qu'il fasse un match, il fasse deux matchs le même jour et que c'est deux équipes totalement différentes. Et après, il y a certains, ils sont sortis du jeu après quelques minutes. Hein, ils font 15, 20 minutes, même une grande star. On peut voir les images, ils sont sur le terrain d'entraînement, en train de faire un entraînement parce que pour eux, le match est terminé. C'est un truc un peu particulier. Mais après, c'est des gars, les meilleurs salaires, c'est 30, 40, 50 millions. Le meilleur salaire, d'ailleurs, du sport individuel, c'est un japonais qui joue aux Dodgers de Los Angeles. Il a 70 millions de salaire par année. Là, c'est un contrat de 10 ans, donc ça fait 700 millions. Voilà, c'est un autre... C'est des autres chiffres, c'est un autre sport. Mais là, c'est 152 matchs de saison régulière.
Peut-être pas avec la même intensité que du hockey sur glace. À peine, tu dis, Gaëtan. Gaëtan, pour conclure ce chapitre, toi, ta solution, ce serait simplement moins de matchs, un tour en moins ou quelque chose?
Je pense pas qu'il y a moins de matchs à faire. Il faut, je pense que tu peux mieux organiser les semaines sur toute l'année. Voilà.
Appel aux personnes qui font le calendrier de la National League.
Un autre à dire.
Très bien.
Mais c'est vrai qu'il y a vraiment, moi, quelque chose qui me choque, c'est Genève qui va jouer à Davos, et puis le lendemain, le vendredi, puis le lendemain, qui accueille Lugano, qui a joué à la maison. Il y a des choses, des fois, c'est un peu aberrant, quoi. Je pense à un club, ils partent le jeudi, jouent le vendredi à Davos, ils arrivent tranquilles le jeudi soir, ils ont entraînement sous la glace à Davos ce vendredi, après ils partent à Lugano, ils font le match, et puis le week-end suivant, c'est peut-être Lugano qui se fait Lausanne et Genève à la suite. Ce serait quand même beaucoup plus intelligent, quoi. D'accord, d'ailleurs, d'accord, la Suisse est petite, mais c'est pas les déplacements que Gaëtan a vécu pour aller faire un aller-retour à, je sais pas, à Winnipeg ou bien à Dallas pour un match. Vous savez que c'est aussi aberrant, hein, dans un sens, quand tu y réfléchis par rapport à l'écologie et tout. Mais je pense qu'en Suisse, Vili, si tu nous écoutes, je sais que tu nous écoutes, Vili Vöcklin, réfléchis un petit peu à ça, réfléchis.
Oui, mais alors, pour prendre la défense, quand même sur un point de Vili Vöcklin, c'est quand même les clubs qui veulent avoir des rentrées tout le temps et c'est eux qui veulent pas... genre jouer pendant 10 jours, ne pas être à la maison pendant 10 jours parce qu'ils ont besoin des rentrées. Donc c'est aussi un petit peu les clubs qui veulent qui forcent tous ces déplacements. Voilà.
Donc Daniel Villard, si tu nous écoutes,
le message est passé.
Bon, bien placé.
C'est vrai, bien centré. On a parlé des blessures. On a parlé du calendrier qui ne va pas. Ça manque un peu de positif. Alors je vous propose une happy hour.
Happy hour.
Et cette chronique t'est évidemment dédiée aujourd'hui, Laurent. Un joueur avait un message pour toi. On va l'écouter tout de suite. C'est parti.
Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Écoute, Laurent, je sais que ces dernières semaines, elles ont pas été faciles. T'as dû concéder une défaite assez amère qui, je pense, encore à travers ta gorge. Celle du chroniqueur préféré de la Stammtisch. Que, malheureusement, le titre allait à Cyril Pache. Je sais que ça n'a pas dû être facile. Mais je sais aussi que si on regarde ton autre coéquipier de la Stammtisch, Lindon, t'as pas la même carrière de inline hockey que lui. Tu fais pas trembler la foule à la Neuville. Mais bon, t'as quand même pour toi quelques des très beaux surnoms du hockey, comme Yannick Érotique ou alors le diamant de la Neuville. Et on n'oublie pas le miracle d'Orvin, quelques très belles trouvailles. C'est pour ça que t'es unique, ma foi. Alors, profite de ton anniversaire, profitez bien de cet épisode, et puis on se croise bientôt. Ciao, ciao.
Voilà, un joueur qui voulait te souhaiter un joyeux anniversaire, Laurent, ça fait plaisir.
Il y a de l'émotion dans sa voix. Il y a de l'émotion. Hein. Il y a de l'émotion. Pourtant, c'est un joueur qui est plutôt froid dans la glace. Hein. Sur la glace, pas très... Ben, merci. On dit son nom. Merci, Noah. Merci, Noah. D'ailleurs, faudra trouver. On avait trouvé, c'est vrai qu'on l'a très peu utilisé.
On l'a très peu utilisé.
Champs de bougeant,
il n'a pas convaincu, ce surnom. T'es pas convaincu non plus. Hein.
Je crois pas qu'il...
Non, mais je crois que Gaëtan Haas se suffit à lui-même, quoi.
Hein. C'est peut-être ça.
Je pense ce joueur qui a le moins de matchs et le moins de points NHL qui a une chanson qui est dédiée, donc
on va pas la réécouter dans cet épisode, désolé, c'est pas prévu.
Ça, quand tu marques les esprits, hein.
Cyril, c'est la petite chronique happy hour en clin d'œil à l'anniversaire de Laurent Kleissel. Je voulais te poser une question. Est-ce qu'il y a une chose, ça fait 5 saisons qu'on l'entend à la Stammtisch, mais que les auditeurs et auditrices ne savent pas sur Laurent, qu'il faudrait absolument savoir? Est-ce que tu as une anecdote, quelque chose à partager à l'occasion de ce 50e anniversaire?
Alors là, tu me prends un petit peu à froid, hein, je dois dire. Comme on dit.
On nous écoute.
Voilà. Comme on dit, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Mais Et qu'est-ce que je pourrais dire? Disons que si Laurent était un personnage d'un film, il pourrait très bien jouer dans, pour ceux qui l'ont vu, dans Very Bad Trip, par exemple. Tu sais que tu vas passer une bonne soirée, tu sais jamais tellement comment ça peut finir, mais, et c'est quelqu'un de très bonne compagnie, voilà, j'aurais plein d'anecdotes, évidemment.
On
va les garder entre nous, et puis, bon anniversaire, surtout.
Merci, merci. Une fois, il m'avait dit, il y a quelques années, Cyril, alors qu'il était en fin de carrière, on était siècle, hein, encore, hein. On était déjà siècle. Il m'avait dit, écoute, Laurent, si t'avais été un joueur de hockey, je pense que ça aurait été une sacrée grande gueule à affûter les autres, mais je pense qu'on aurait dû quand même dû te défendre, quoi.
Je rectifie. Laurent aurait jamais pu être un joueur de hockey. Parce que, pour l'avoir quand même côtoyé souvent sur des championnats du monde ou, voilà. Il est beaucoup trop douillet, il a besoin de son petit lit, de son petit confort, de sa chambre à lui, il peut pas se doucher avec des autres, donc t'aurais pas pu être joueur de hockey, Laurent. Voilà.
Et Laurent, pour reprendre une chronique que tu apprécies pour conclure ce passage sur ton anniversaire, Cyril aurait plein d'anecdotes à raconter, mais cela ne nous
regarde pas.
Messieurs, il reste plus que quelques minutes à cet épisode. On va passer aux questions des fans, des auditeurs, des auditrices. Beaucoup, beaucoup, Sandrine, Yvan, Yanus notamment, parlent des coachs. Alors, on va commencer par la question de Sandrine pour toi, Gaëtan. Hello, capitaine. Comment est l'ambiance avec les nouveaux entraîneurs? À bientôt, j'espère, et bon rétablissement.
Ah, c'est la merde.
Non, on va dire que c'est la question de chaque année, il me semble. Mais non, ça se passe super. Super bien, il y a un bon groupe de gars là. Je dirais que il prend vraiment tout le monde sur la même hauteur. On sent que que ça soit n'importe quel joueur est important. Il fait sentir à chaque joueur qu'il est important et ça se ressent sur la glace. On voit que les jeunes, ils comprennent ce qu'on leur demande et ils le font très bien jusqu'à maintenant. Donc non, je dirais qu'il y a un bon groupe. On soutient tous et ça se voit sur la glace, malgré, je dirais, beaucoup de blessés. Les résultats suivent. Et si tu as un groupe qui vit pas bien ensemble, c'est impossible.
Parfait. Je pense que tu as répondu directement aux questions sur les entraîneurs. Vu qu'il reste plus que quelques minutes, je passe à une autre question de Tommy. Sans langue de bois, qu'est-ce que tu penses du nouveau contingent? Est-ce qu'un renfort serait nécessaire dans un certain compartiment du jeu ou...
qu'est-ce que tu penses? Joueur, pas au futur directeur sportif. Hein.
Qu'est-ce que tu penses de l'effectif de cette année? Rajeuni.
Rajeuni, ouais. Voilà. Bah, je pense que c'est le mot, en fait. On savait qu'avec les départs la saison passée et je dirais le budget qu'on a à Bienne, d'ailleurs, ça a été bien expliqué la semaine passée, on fait avec nos moyens et là, on donne la chance vraiment à beaucoup de jeunes. Et en gros, c'est à eux de prendre leur chance. Après, bien sûr. Si tu veux jouer le titre, faut soit que les jeunes prennent la bouteille et ça va prendre quelques saisons ou tu peux aller chercher des joueurs. Mais actuellement, on fait avec ce qu'on a et je crois qu'on le fait plutôt bien entre l'arrivée des nouveaux entraîneurs et tous les départs qu'on a eus au cours de l'été. Et voilà.
Pour faire l'avocat du diable, je dirais qu'il y a Harry Sateri qui le fait surtout bien. C'est quand même le facteur qui fait que Bien, c'est on va dire le facteur X, c'est quand même le joueur qui fait que Bien est maintenant en position pour être dans les playoffs. Ah, il y a Cyril qui hoche de la tête, qui opine du chef. Vas-y, Cyril.
Non, mais je suis d'accord avec toi, mais je trouve que c'est un peu pour ça qu'il est là, et puis c'est pour ça qu'il est. C'est le joueur un peu phare de l'équipe, quoi. Donc pour moi, c'est un petit peu la moindre des choses qu'il soit bon, quoi.
Ouais, entre être bon et puis être au-delà de bon. Et puis en plus, c'est marrant parce qu'à Zurich, il a pris un rouleau. Bon, pour moi, c'est un rouleau. Mais on n'y en veut même pas, quoi. Parce que le gars, il finit avec 98% à peu près, quoi. Même si c'est une défaite. Non, Harry Sateri, il est pour beaucoup, pour le début de saison, le bon début de saison du HC Bienne. Et moi, je pense, pour revenir à ce que disait Gaëtan, il y a un super bon matériel dans ce contingent actuel. C'est encore très brut, hein. Puis il y a des joueurs qui se retrouvent, hein. Faut pas oublier qu'un gars comme Fabio Hofer, qui est un joueur important dans l'équipe, l'année passée, c'est une saison oubliée, était blessé, il est revenu, début de saison, préparation début de saison, il était pas trop là, puis là, il a trouvé ça, on retrouve, c'est des joueurs qui sont très importants, et là, il y a Harry Sateri. Pouvoir s'appuyer sur un joueur comme ça, avec une équipe, avec le contingent du HC Bienne, ça a pas de prix, quoi.
Il y a plein d'autres questions qu'on a reçues d'auditrices, d'auditeurs.
Désolé, excuse-moi.
Non, pas de souci.
Je dis plus rien.
On n'aura évidemment pas le temps de toutes les poser.
Je garde le micro vers moi.
C'est gentil, Cyril. Je garde ces questions parce que, Gaëtan, t'es déjà venu 6 fois maintenant à l'âge tamtiche. Est-ce que tu reviendras une 7e? Tu serais d'accord de revenir pour toutes les questions qu'on n'a pas le temps?
Ah, je pense qu'on peut le faire.
Yes, merci beaucoup. Je leur pose une dernière.
Il paraît qu'il va plus jouer cette saison.
Prochaine fois, juste regarder pour que Laurent n'ait pas l'apéro toute la journée.
Je te pose une dernière question de Tommy, comme ça si tu te fais accoster ces prochains jours, ben, ça répondra directement. Il dit, ça m'est déjà arrivé de croiser Gaëtan en ville ou bien aux courses et de parfois l'arrêter pour échanger un mot ou bien faire une photo avec ma fille. Est-ce que ça te dérange?
Non, non, c'est très, très cool, je dirais déjà en Suisse. Très cool ici à Bienne, c'est toujours fait poliment, et pas lourdement, donc non, je fais ça avec plaisir.
Parfait. Eh bien, merci Gaëtan. On a entendu tes réponses. Il y a le tirage au sort du concours pour gagner un maillot dédicacé. C'est le maillot qui a été mis en jeu lors de l'épisode précédent avec Sébastien Meyer où on parlait justement des finances, du commercial. Merci beaucoup pour tous vos retours d'ailleurs sur cet épisode. Ça fait vraiment plaisir. Le tirage au sort, on va le faire en vidéo et ce sera à regarder sur nos réseaux sociaux. Ça, c'est dit. On va passer au dernier chapitre de cet épisode. C'est évidemment la tradition. On passe au quiz.
Dernière tournée.
Messieurs, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Laurent, on l'a bien compris. Il a choisi comme invité...
Qui est né en 1974, c'est ça?
Non, ça va plus loin que ça. Il a choisi comme invité Gaëtan Haas.
Il a exigé.
Donc Gaëtan autour de cette table et les auditeurs, ils ont l'ennui du stade de glace.
Malgré tous les mots qu'il accable. Du stade de glace, oui. On va parler du stade de glace.
Non, les auditeurs ont l'ennui du stade de glace car on avait un sondage sur Spotify. Alors désolé, pendant 3 jours, il ne s'est pas affiché. Ensuite, Spotify a résolu le problème.
De toute façon, ces sondages sur Spotify, c'est pas très fiable. c'est pas très fiable.
Il est venu un peu tard ce sondage-là, alors que le premier, il est totalement fiable. Il y a eu une 40aine de votes et 54% préfèrent le stade de glace à la Tissot Arena, donc un peu plus que la majorité. Gaëtan, en deux mots, toi, plutôt stade de glace, Tissot Arena, je crois qu'on en avait déjà parlé.
Deux salles, deux ambiances, enfin, ouais. Je veux dire, stade de glace, c'était incroyable, avec toute l'histoire qu'il y a eu, mais à un moment, fallait, si on voulait suivre le troupeau, fallait de la nouveauté, des nouvelles infrastructures, donc... Ouais, je dirais que la Tissot est top pour nous. On a l'impression que c'est quand même quasi toujours plein avec le nombre de places et spectateurs. Et je crois, comme dit la semaine passée, on remplit le trou encore là et je pense, voilà, il y a de quoi faire quand même.
Il écoute la Chamtiche.
Il écoute la Chamtiche.
Ouais, avec tous les voyages à Zurich, j'ai eu le temps d'écouter des trucs là.
Ben c'est gentil, bon choix, bien
en
vu.
Plus, ça fait pas mal à la tête, c'est bon pour la tête, hein, comme ça se le gorge.
Conneries que vous dites. Hein.
Donc les 3 ingrédients, anniversaire de Laurent, Gaëtan Haas comme invité, ennui du stade de glace. J'ai essayé de choisir un thème là autour. Vous allez vite
c'est
le comprendre.
C'est la vie de Cyril, hein, le stade de glace aussi.
Oui, c'est vrai,
sa carrière, c'est le siècle passé. Hein.
Vous allez vite comprendre à quoi je fais référence. N'en dites pas trop. Contentez-vous de répondre aux questions parce qu'ensuite, ça va être dans les questions suivantes, d'autres informations. Vous allez comprendre. La première question, celui qui a la réponse en premier répond directement. Le quiz du jour, il s'intéresse à une rencontre au stade de glace. C'était un dimanche, le 17 janvier 2010.
Premier goal.
Quelle équipe affrontait Bienne ce jour-là?
Zurich,
bien joué. Bien joué. Tu connais la date par cœur.
Non, mais 2010, je savais que c'était juste avant mes 18 ans.
Exact.
Et puis, bah, la date exacte, ouais. J'aurais pas pu te dire que c'était le 17, mais...
T'as attendu 4 ans pour le deuxième, hein, c'est ça?
Quelques matchs seulement, quelques matchs pour le deuxième.
Pour le deuxième, Assis, ça allait assez vite, c'était ouais. Après que c'était un peu là.
Ouais. Je m'en souviens plus, c'est Assis...
Ah non, non, ne dites rien, ne dites rien, justement.
Ah voilà.
Il y a la suite qui vient plus
c'était
tard.
C'était quel jour?
17 janvier 2010, c'était un dimanche.
Ça va aller vite.
Victoire de Zurich, hélas, 6-3. Laurent Kleissel, tu couvrais l'événement pour le journal du Jura, c'était ton article.
Je m'en souviens, bien sûr.
Tu t'en souviens évidemment. Moi, je me souviens, j'étais en place debout, j'avais presque 15 ans, et Gaëtan, tu l'as dit, toi, t'étais sur la glace, t'avais presque 18 ans. Deuxième question. Complétez cette phrase de l'article de Laurent Kleissel, paru le 18 janvier, du coup, le lendemain 2010. Gaëtan Haas, 3 points de suspension, il n'a pas manqué son entrée, point d'exclamation. Son premier acte du match, point d'interrogation, une charge énorme sur...
Alain Reist.
Oui. Je me souviens de ça maintenant. Ouais. Est-ce que t'es. Alors, c'est une question, elle n'est pas dans le cul. T'es allé manger chez lui depuis qu'il a ouvert à Bienne ou bien. Ouais. Non.
Oui. Tu es dans l'affaire d'ailleurs. J'allais dire justement, une charge énorme en 2010, tu l'as blessé. Hein. Faut préciser, t'as blessé Alain Reist. Et 14 ans plus tard, tu es associé pour ce bistrot à Bienne, c'est ça?
Oui.
Très bien.
Oui, c'est juste.
Tout, tout est possible. Tout est possible.
Ah, mais bon, Marseille, tu vois, ça réunit.
C'est Marseille. Allez, l'OM. Touché à une épaule, alors je lis l'article, un paragraphe. Touché à une épaule, le gars de Péry ne reviendra plus. Puis plus tard dans l'article, Alain Reist, il y avait une citation, il disait « Depuis le début de l'année, je me sens bien, j'ai pas mal de glace, j'ai retrouvé la confiance après un début de saison difficile et il faut que ce junior me blesse. »
Ce junior, ouais.
Voilà pour le souvenir. C'était ton sixième match, je crois, en ce jour de janvier 2010. Troisième et dernière question, mais vous l'avez déjà teasé, donc tu vas vite y répondre, Gaëtan. Sans la question, tu peux donner la réponse.
Ouais, Caminada.
Pascal Caminada pour l'assist. Bien joué. Il avait remplacé Reto Berra pour le troisième tiers, sauf erreur. Ben bravo. Trois réponses justes de Gaëtan Haas. Bien joué. Félicitations.
La tête va pas si mal.
Ouais, il peut jouer là.
Martin Philander, si tu nous écoutes, il est prêt. Hein.
On arrive au terme de cet épisode. Gaëtan, merci beaucoup encore une fois d'être venu à l'Hashtag Tiche. Bon plaisir, rétablissement.
Ouais, merci.
Laurent, encore joyeux anniversaire.
Merci.
Cyril, merci beaucoup. À très bientôt. On se revoit dans deux semaines. Ce sera en compagnie du défenseur Gaël Christ. Le HCBN reçoit Rapi vendredi, se rend à Porrentruy samedi. Un petit dernier mot, Laurent?
Mais il faut quand même rappeler qu'on enregistrera mercredi dans deux semaines, le 6 novembre, je crois. Ça sera en direct à Moutier Expo.
À Moutier Expo,
au stand
exactement.
De RJB, à jour et du Journal du Jura. Si tu faisais ton boulot jusqu'au bout, tu... hein, on va... je vais en parler au marketing à la prochaine
séance. Toutes les informations seront communiquées sur nos réseaux sociaux. Les deux matchs du week-end sont évidemment à suivre sur RJB. À très bientôt. Bye bye.
Salut tout le monde.
Ciao.
C'était l'Hashtag-Tiche, toute l'actu du HC Bienne proposée par Ajour, RJB et le Journal du Jura.